on rapporte une histoire abracadabrantesque.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Je suis le bruit et la fureur.
Travaillez plus pour gagner plus.
Je vous demande de vous arrêter.
Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin.
T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs.
Pas content, pas content.
On s'énerve pour rien. Vous, vous énervez pour rien.
Pas content.
Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
Tout de suite, là. Ça a commencé?
Oui, ça a commencé.
L'émission a commencé.
On est à l'antenne depuis 5 minutes.
Bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes bien sûr Bonjour Turbine, l'émission produite par le Media Lab, en direct sur Station B à Caen et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Je me permets de vous le rappeler, nos émissions sont également dispo en podcast sur notre site internet medialab-normandie.fr et sur le site de la Station B et autres plateformes de streaming. Ce soir, pour la 82e émission de Bonjour Turbine, on parle de réensauvagement, de végétalisation. Et si ces termes ne vous parlent pas du tout, vous êtes au bon endroit. Alors, je vais peut-être faire un petit tour de table parce qu'on a du temps. Léna, toi, de quoi tu vas nous parler ce soir ?
Eh bien, je vais vous parler de ma définition de réensauvagement, ou comment j'ai plutôt découvert ce terme, ou redécouvert pour le décrypter, ainsi qu'une petite CPV écrite dans les bureaux du Media Lab.
Il y a moins d'une demi-heure, effectivement. Et pour toi, Dakota, tu es parti en investigation.
Oui, en fait, moi, j'ai découvert le réensauvagement à travers un entretien avec un ami, en fait, qui fait des chantiers nature et puis des protections un petit peu environnementaux.
Ok, eh ben on le retrouvera en deuxième partie d'émission, si je ne m'abuse. Nous avons également le fidèle David. Qu'as-tu préparé ce soir?
Alors, vous n'aurez pas une, mais deux pour le même prix de chroniquette. Donc, un invité surprise tout à l'heure, mais aussi, on va dire, un petit billet sur le réensauvagement.
Ok, eh bien écoute, on a hâte de t'écouter. On a évidemment Marion à la technique. Marion, tout va bien? Les potards sont en ligne?
Tout est bien aujourd'hui, tout est en ordre.
Très
ça
bien.
Va le faire.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, je ne présente pas la dernière membre de l'équipe, puisque là, elle arrive un petit peu plutôt comme une invitée spéciale. Elle est très légitime pour nous parler du réensauvagement, de la végétalisation. Donc, je vous propose un petit jingle invité pour accueillir Floriane. Bon alors Floriane, déjà pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi tu es légitime à parler de ce sujet?
Alors je suis légitime puisque à défaut d'avoir trouvé les bonnes personnes pour venir parler, en tout cas les personnes disponibles pour venir nous parler de ce sujet ce soir, je me suis un peu penchée sur la question et puis j'ai essayé de retracer un petit peu ce qu'était la notion de réensauvagement, comment elle est perçue, interprétée par différentes personnes, différentes organisations, et essayer de savoir comment on peut un petit peu placer le curseur entre nature sanctuarisée et usage intensif des espaces naturels.
Et donc, je précise, de par ton métier de rédactrice.
Oui,
accessoirement. Oui, on peut dire ça. Alors, justement, commençons. Quand on parle de réensauvagement, de quoi parle-t-on exactement?
Alors, en fait, le réensauvagement, ou rewilding, pour le dire en anglais, c'est un concept qui est né aux États-Unis dans les années 1990 à peu près, et qui invite finalement à protéger une zone pour lui permettre de retrouver toutes ses fonctionnalités d'origine, c'est-à-dire celles qui existaient avant que les activités humaines ne viennent les perturber ou les dégrader. Donc il s'agit notamment de favoriser tout ce qui est retour de la flore et faune sauvage qui occupait les lieux en fait autrefois.
Et alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un concept qui est autant d'actualité ?
Eh ben pour toutes les problématiques climatiques et environnementales qu'on connaît aujourd'hui et dont on commence évidemment à sentir sérieusement les effets. Alors je vous donne juste un petit chiffre pour resituer. Entre l'urbanisation, l'artificialisation des sols, la déforestation ou les exploitations intensives, on a seulement 3% de la surface des continents qui reste aujourd'hui inexploitée par l'humain. Et ça comprend aussi les zones polaires et les déserts inhabitables. Donc 3% comprenant ces zones-là, ça fait vraiment très très peu.
C'est très peu, ouais. C'est flippant même.
Ouais. Et justement, un autre chiffre qui permet un petit peu de mesurer l'effet de cette pression, c'est qu'il y a 10 000 ans, avant l'apparition de l'élevage et de l'agriculture, on avait plus de 80% de la biomasse des vertébrés terrestres qui était composée d'animaux sauvages. Depuis ces dernières décennies, on a vu leur masse divisée par 7, tandis que celle des animaux d'élevage, elle a explosé, si bien qu'aujourd'hui, les humains et leur bétail représentent à eux seuls 95% de cette biomasse.
Encore une nouvelle très réjouissante.
Ouais, en fait, littéralement, la faune sauvage, elle ne pèse quasiment plus rien. Et il y a une formule du philosophe et naturaliste américain Henri David Thoreau que j'aime bien. Lui, il dit « Dans l'état sauvage réside la préservation du monde ». Et en fait, il a formulé ça au 19e siècle, mais ça résume pas mal la situation d'aujourd'hui, où finalement, le ré-ensauvagement, il apparaît un peu comme une stratégie prometteuse pour restaurer la biodiversité, mais aussi pour favoriser la résilience des écosystèmes, d'autant plus dans un contexte de changement climatique.
Okay.
Et du coup, depuis les années 2000, on voit un petit peu partout en Europe un nombre croissant d'initiatives qui se réclament du ré-ensauvagement et qui visent en fait à recréer des vastes espaces dédiés à la vie sauvage où toute forme d'exploitation humaine serait finalement exclue et interdite, quoi.
Bon, du coup, il y a quand même des humains qui prennent ça à bras-le-corps. Et alors justement, comment concrètement ça se passe ?
Alors, il n'y a pas une manière de faire du ré-ensauvagement. Il y a des espaces qui sont laissés en libre évolution. Il y a des gens qui portent l'ambition de recréer des forêts primaires. Il y en a d'autres qui veulent réintroduire des espèces. En fait, on voit des organisations qui ont des pratiques très, très diverses et qui se réclament toutes du ré-ensauvagement. Et finalement, ces pratiques, elles sont portées aussi bien par des institutions publiques. Donc, il y a tout ce qui est réserve biologique intégrale et îlots de sénescence qui sont notamment portés par l'Office national des forêts. Il y a évidemment les réserves naturelles et nationales et régionales ou encore les cœurs de parcs nationaux. Mais faut savoir qu'il y a aussi des habitants qui ont pris à cœur cet enjeu et qui s'organisent dans des cadres associatifs ou privés pour aussi réussir à réensauvager certains espaces, quoi.
Donc on rappellera jamais assez le rôle de l'ONF notamment qui subit un peu de pression là, du milieu agricole intensif. Alors est-ce que tu as des exemples ? On va en parler, c'est génial. Est-ce que tu as des exemples d'initiatives à nous présenter peut-être ?
Oui, alors il y en a une qui est vraiment la tête de pont du ré-ensauvagement sur le continent européen. C'est la fondation Rewilding Europe qui est basée aux Pays-Bas et qui œuvre au ré-ensauvagement de territoires de plusieurs dizaines de milliers d'hectares un petit peu partout en Europe. Donc la fondation néerlandaise fédère déjà une dizaine de projets dans 27 pays au sein du réseau européen du ré-ensauvagement. Donc c'est vraiment un petit peu le fer de lance de ce mouvement. En France, dans les plus médiatiques, on retrouve le biologiste français Francis Allais. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, lui, il ambitionne de recréer en Europe de l'Ouest une forêt primaire de 70 000 hectares. Et il cherche à convaincre plusieurs États, en fait, européens de dédier une zone forestière transfrontalière à la libre évolution. Donc, par exemple, entre le nord des Vosges et le Palatinat allemand ou encore dans les Ardennes, à cheval sur la France et la Belgique.
Ben on est tous derrière Francis.
Ouais. Après, il y a aussi Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet, qui est un couple d'agrégés de sciences de la vie et de la terre, qui a fait du ré-ensauvagement de l'Europe leur projet. Alors Gilbert Cochet, il est assez connu aussi. Il a écrit de nombreux livres sur la faune sauvage et les écosystèmes français. Et pour lui, en fait, il défend l'idée que le ré-ensauvagement, c'est pas seulement pour le simple plaisir des yeux ou la connaissance scientifique, mais c'est aussi pour son utilité immédiate face au changement climatique. Donc il y a tout dans les forêts notamment et dans tout un tas d'espaces naturels. Il y a la question de la séquestration du carbone, de l'abaissement local des températures, mais aussi de la purification de l'eau, etc. Donc il y a tout un tas de services écosystémiques qui sont plus que jamais utiles en fait dans ce changement, dans l'adaptation aussi aux effets du changement climatique. Et donc Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet, donc ils sont tous les deux membres du conseil d'administration de l'Association pour la protection des animaux sauvages, donc l'ASPAS, et fondateurs de l'association Forêt Sauvage. Et à travers ces différentes structures, en fait, ils tentent d'acquérir des terres délaissées pour y installer des aires de libre évolution.
Et alors, est-ce qu'on a déjà des résultats ? Est-ce que ça fonctionne ? Et comment c'est perçu ? Est-ce que c'est accepté ?
Alors ça fonctionne et en même temps, ça fonctionne pas toujours très bien. Je vous parlais de l'ASPAS donc à l'instant, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Alors eux, en 2019, ils ont acquis 500 hectares de forêts et prairies naturelles dans le massif du Vercors, enfin, afin d'en faire la plus grande réserve de vie sauvage. Donc pour ça, ça a plutôt bien marché dans le sens où ils ont lancé une campagne de financement participatif. Ça leur a permis de récolter 2,3 millions d'euros donc pour acquérir ces terres. Sauf que l'opération a aussi déclenché un petit tollé et un petit conflit ouvert, notamment avec la Confédération paysanne de la Drôme, qui a ouvertement critiqué la création de cette réserve et qui a même rédigé à l'occasion une motion contre le ré-ensauvagement.
Pourtant, la Confédération paysanne qui quand même prône la biodiversité, la prolifération de haies bocagères, donc ouais, C'est étonnant.
C'est étonnant.
Tu voulais intervenir, David ?
Oui, parce que par rapport à ce que tu disais, on a aussi des exemples locaux. Je pense à cet homme-là du côté de Ussy, qu'on avait interviewé. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne me rappelle plus du tout son nom.
J'ai plus son nom non plus.
Et en fait, lui, son but, c'était de reforester partout et d'essayer d'aller voir les politiciens. Et il avait beaucoup de mal à lancer son entreprise. Mais j'ai vu qu'il continuait des initiatives locales, notamment avec les collectivités publiques, les écoles. Il y a souvent, on le voit dans Ouest France, il y a des opérations qui sont menées par cet homme.
Effectivement. Alors, j'ai plus le nom de son asso, mais je sais qu'il y a une autre asso qui s'appelle Silva Domesticus qui fait ça aussi sur le territoire. Alors, je reviens à toi, Floriane. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a une telle opposition justement à ce genre de projet ?
Bah, en gros, ce qui est reproché à ces associations, notamment à l'initiative de l'ASPAS, c'est d'agir sur les territoires, mais ça au détriment des usages locaux ruraux déjà en vigueur. Donc, pour certains, en fait, cette approche du réensauvagement, elle est considérée comme une vision finalement assez simpliste de l'écologie qui mettra à mal en fait les savoirs et les pratiques locales de la terre. Et finalement, dans ces conflits, ce qu'on voit surtout apparaître, c'est une vision très dualiste du monde dans lequel on a la nature d'un côté, la culture de l'autre. Et ces deux concepts seraient toujours séparés et antagonistes. Et il y a un exemple qui est assez frappant sur ce sujet-là, qui remonte à plusieurs centaines d'années, quasiment deux siècles, en fait, aux États-Unis. Il y avait certains milieux qui étaient depuis très longtemps habités par des communautés humaines qui ont été sanctuarisés et appropriés par l'État, notamment lors de la création des premiers parcs nationaux. Donc il y a Yellowstone en 1872 et Yosemite en 1890, donc ça fait un petit moment. Et en fait, ces initiatives, elles ont en partie conduit à exclure les populations locales autochtones nomades, mais aussi des petits éleveurs ou des paysans qui y résidaient depuis très très longtemps et qui ont été totalement destitués de leur savoir-faire et quasiment réduits finalement à la misère.
Et alors, est-ce qu'on peut dépasser cette opposition ?
Oui, en fait, aujourd'hui, globalement, quand même, il faut le dire, la majorité des penseurs du réensauvagement appellent à dépasser cette dichotomie. Donc on a vu ces dernières années fleurir un certain nombre d'initiatives qui plaident justement pour ce nouvel équilibre entre le vivant humain et le vivant non humain, donc notamment dans tout le champ de la recherche anthropologique, philosophique ou même dans l'histoire, mais aussi dans le champ des luttes. Alors on retrouve là tout ce qui est ZAD, notamment la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec leur slogan qui était « Nous sommes la nature qui se défend ». Donc ça montre bien qu'en fait on ne peut pas toujours continuer à opposer l'humain et le non-humain.
Beaucoup repris par les soulèvements de la Terre aussi, ce terme.
Tout à fait. Et puis aussi tout ce qui est mouvement écoféminisme ou les associations de défense des droits autochtones. Donc finalement, ces initiatives, elles permettent en partie d'entrevoir une forme d'abandon de cette opposition entre usage intensif et, comme je le disais tout à l'heure, sanctuarisation de la nature. Et finalement, dans cette réflexion, on peut arriver à un stade où les activités paysannes ou forestières peuvent même être des leviers, finalement, du réensauvagement. Je pense notamment à des projets comme de foresterie douce, portés par le réseau pour les alternatives forestières, ou même d'une agriculture plus ouverte aux sauvages, qui est notamment défendue par les paysans de nature ou les fermes paysannes et sauvages. Donc, et je vous parlais aussi de la fondation Rewilding Europe tout à l'heure. En fait, leur projet, eux, dans ces espaces, c'est d'abord d'avoir un cœur où toute exploitation humaine est interdite, puis ensuite d'élargir avec une zone tampon où les activités les plus néfastes font l'objet d'un retrait progressif, et enfin une zone de transition où là, on a des formes d'exploitation qui sont autorisées, notamment tout ce qui est agriculture biologique, chasse, exploitation durable du bois, etc. etc.
Donc un oasis qui s'étend, on va dire.
Voilà, où en fait, on essaye de concilier tout un tas d'usages en ayant, là où c'est possible, des zones où les activités humaines sont inexistantes, des zones vraiment de vie sauvage qui permet à certaines espèces qui, dans tous les cas, sont perturbées par des activités humaines d'être dans ces espaces-là. Et puis autour, d'avoir quand même des espaces où l'homme a sa place. Et puis il peut aussi y avoir ces activités, celles qui sont nécessaires à nos sociétés et sur lesquelles on ne peut pas forcément...
Évidemment, nous sommes de plus en plus nombreux. Voilà.
Tout à fait. Et donc finalement, plutôt que d'opposer le réensauvagement aux usages locaux, cette vision un peu moins dualiste, c'est aussi une manière d'approcher politiquement le réensauvagement et pas seulement écologiquement. Et donc finalement, de construire ce réensauvagement à partir des territoires, avec les territoires, plutôt que contre les territoires et ses usages Voilà. Et pour terminer, je dirais aussi que c'est une manière peut-être de commencer à penser et entrevoir le réensauvagement de certains territoires très anthropisés, donc là où la présence humaine elle est très importante, et je pense notamment aux espaces urbains ou aux friches, où finalement on voit quand même que la vie sauvage elle peut renaître, et ce malgré l'influence humaine.
Effectivement, c'est pas forcément un prisme qui existe aujourd'hui dans la tête des politiques. Quand on voit une friche, on dit voilà, c'est un terrain où les promoteurs pourront s'installer prochainement et on pourra faire un petit peu d'argent. Voilà, on est d'ailleurs nous-mêmes sur la zone de Colombelle avec une belle friche en face qui pourrait évoluer. Voilà, nous on aime bien les petites plantes qui sont en face de chez nous. Merci beaucoup Floriane, je pense que tu as bien prouvé ta légitimité à nous parler de ce sujet. Sans plus attendre, on continue avec la première CPV. Je crois que David, tu as le nom de...
Bossy Sévère,
exactement, voilà. Bossy Sévère. Et c'est un très beau jeu de mots. Passons à la première CPV, capsule pédagogique et véridique. Eh bien, ça fait sens avec ce que David nous disait, puisque moi, je veux vous parler de planter une haie naturelle chez vous, à Caen-la-Mer. Alors, dans le cadre de l'opération Ma haie, mon jardin, Caen-la-Mer vous accompagne. Et c'est plusieurs communes de l'agglomération qui vous offrent des plans pour créer une haie naturelle dans votre jardin et favoriser la biodiversité. Donc, il y a deux kits au choix. Il y a une haie d'arbustes, donc arbuste niveau bas, et une haie d'arbustes plus trois arbres de grande taille. Alors, comment participer? En fait, il faut habiter dans l'une des communes participantes que je vais vous citer tout à l'heure. S'inscrire en ligne avant le 1er juin sur le site de Caen-la-Mer. Donc, je rappelle, l'opération, c'est Ma haie, mon jardin. Et fournir via le formulaire donc deux photos de votre jardin et un plan simple indiquant où vous planterez la haie. Alors c'est Caen-la-Mer qui finance les plans, votre commune vous les remet et vous vous engagez à les planter et à les entretenir. Alors, je répète quand même, pourquoi est-ce que c'est intéressant de planter une haie bocagère? Eh bien, parce que c'est un écran naturel, elle protège du vent, mais aussi des regards indiscrets. C'est un atout pour la nature, elle abrite les oiseaux, les insectes, les petits mammifères, et puis ça embellit le paysage toute l'année, fleurs au printemps, baies en automne, feuillage varié. Et alors, si vous habitez dans l'une des communes que je vais citer, vous avez le droit gratuitement à aller chercher ces arbres, ces arbustes. Alors il y a Bénouville, Biéville, Beuville, Blainville-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Caen, Quéron, Cambanplaine, Colville-Montgomery, Colombelle, Cormel, Hermanville, Hérouville, Ifs, Lyon-sur-Mer, Raux, Thaon, Ouistreham. Et j'en passe, il y en a énormément, Verson également. Donc voilà, rejoignez cette belle initiative et faites de votre jardin un espace de nature préservée. Alors, chers auditeurs, vous étiez nombreux à nous écrire il y a deux semaines. Mais où est Léna? Pourquoi pas de chronique cette semaine? Émission gâchée sans Léna. Hashtag libérer Léna. Bref, je vais pas tous les lire, mais en tout cas, tu nous as bien manqué. Donc voilà, on espère que tu as passé un bon carnaval, Léna.
C'était super.
Alors, j'imagine que tu es là pour nous jouer un mauvais tour, n'est-ce pas?
Je suis là pour reprendre du service. Effectivement, aujourd'hui, on parle de réensauvagement. Et donc, je vais décortiquer ce mot avec vous. En, sauvage et ment. Ré, revenir en arrière. En, vers une destination, sauvage, faune et flore. Ment, mensonge. Non, voyons plus positif. Quelle est l'étymologie? Il vient du nom féminin latin mens, mentis, qui signifie disposition d'esprit, intention, manière. Ok, alors avec tout ça, on a l'action de revenir vers une destination de faune et de flore par l'intention humaine. C'est le bazar. Pourquoi est-ce que je m'y retrouve pas? On doit ramener nos poules et nos pâquerettes Ruec? Est-ce que c'est un projet à court ou moyen terme? Une mode, une action bobo woke avec belle conscience zaraesque? Est-ce qu'on arrête de couper nos pelouses et nos haies pour laisser la biodiversité et nos voisins en paix? Revenir, c'est effectuer un contrôle Z de nos parkings? Bon ok, peut-être un peu rude. En fait, je suis tendue. La même sensation me taraude le ventre. Devoir faire le travail de Géo toute seule car l'autre est absent pour des raisons personnelles. Tu parles. Tout le monde sait qu'il est dans son canapé à manger des cookies. Il se marre bien devant sa série apocalyptique pendant que moi je me casse le crâne sur la montée des eaux en Lettonie. En. L'intangibilité de cette projection fleurie me flétrit, me ride, m'assèche et me meurtrit. Comme d'un pessimisme certain. Pourtant ma naïveté me donne espoir. Toujours, très fort. Alors pourquoi cela? Sauvage. La première image qui me vient, c'est un caleçon à peau de léopard et d'un long cheveu blond. Je ne crois pas que ce soit l'idée de nos agglomérations. Quoiqu'avec le réchauffement climatique, on aura peut-être des nouvelles modes un peu plus osées. Mais sans léopard. En plus, il n'y en a plus. Enfin, on touche au but, quoi. Ment. Volonté de faire, de défaire, de refaire. Ok, mais on fait quoi, en fait? Je veux bien planter des pâquerettes. Mais ça ne va pas empêcher les avions de voler, les vaches de péter, le pétrole de couler, les cigarettes d'être jetées. J'en veux aux générations précédentes. Toutes, et peut-être même celles d'avant. J'en veux au présent, à l'avenir, au temps, aux vieux, aux jeunes, aux opulents. Réensauvagement est un terme qui me griffe le cœur. Il est aussi rauque que le béton qui nous tient. Sommes-nous allés si loin qu'on doit à présent repenser la nature alors même qu'elle était là avant nous? Si loin qu'on doit inventer un mot pour désigner cette situation? On va drop des renards en ville, on va voir ce que ça fait? Go souffler trois fois et faire un pas en arrière. C'est un engrenage. Changeons de perspective. Et si je me disais que ce mot est synonyme d'espoir? Ce mot existe aujourd'hui, car des humains bons ont perçu une incohérence dans le Schmilblick. Ok, incohérence cuisante quand même, mais, et là je souligne le mais, qui mène à une réflexion. Postulat, raisonnement sur notre monde, puis volonté de faire, et enfin, action. Et si réensauvagement était le début d'un processus harmonieux, plus grand que nous, plus doux? Et si j'enlevais mes œillères du pessimisme afin de laisser entrer la lumière des possibilités, pas à pas, par une idée, par son appellation, par la discussion, l'écoute, l'envie d'agir, et enfin par l'action, par le courage, la force d'esprit. Raisonnons avec volonté et agissons pour mon combat, notre combat et notre vitalité qui nous lie.
Allez, on applaudit hein, quand même. Hein. Encore une fois, merci. C'était très bien écrit. On adore être dans la tête de Léna. Et alors, pour nos auditeurs qui nous écrivent, effectivement, vous allez la retrouver tout à l'heure. Léna, elle reste avec nous autour de la table. Pardon, voilà. Mais nous allons passer à une pause musicale. On vous propose aujourd'hui un artiste qui s'appelle Cyr Arnaud du Patelin. C'est un artiste orné. Et en fait, il a enregistré son dernier album à l'énergie solaire. Et oui, oui. Alors, cet homme est formidable. Donc, je rappelle son nom, Cyr Arnaud du Patelin. Et le titre que nous allons écouter, c'est « Nouvelle ère ».
Le monde est aveugle, la terre est muette, les gens restent sourds, comment les toucher? La nature est un spectacle de beauté et de poésie. Une branche pourrie est un village de cloportés, moultes et champis. Un tas de feuilles qui moisit, c'est l'avenir d'une fleur jolie. Un jardin de vie est fertile et peut sauver des terres stériles. La baie qui butine, c'est un fruit, de beaux légumes pour faire ton bol. N'aurons-nous pas le bourdon si du soleil vert fait notre bol? Quelle balade chanterons-nous si l'homme assassine la vie du sol? T'en as rien à cirer, l'ami, mais ce verset est vu l'idole. Où cueillerons-nous le bonheur si je tue nous vous, il se dévore? Et la branche qui les soutient si tel un mouvement en plein effort. Rendons l'avenir à nos enfants, la croissance est mieux dans la tête. Les trésors du monde sont vivants et ne se vendent ni ne s'achètent. Arrête-toi et réfléchis, refais du tri dans tes envies. Le bonheur est à portée de main pour ceux qui limitent leurs besoins. Pourquoi donc courir à sa perte quand la nature donne une fête? Rendez-vous à tous de bonheur et la terre nous fera une fleur. Parapapa, parapapaï, parapapa, parapapaï, parapapa, parapapaï, parapapa, parapapaï.
On vient de s'écouter Cyr Arnaud du Patelin, le titre Nouvelle ère. Vous êtes toujours sur Bonjour Turbine, évidemment, émission sur le réensauvagement, la végétalisation. Et allez, je profite de ces 30 secondes pour vous parler de cet artiste que vient d'écouter. Cet homme est incroyable. Si vous voulez en savoir plus, il y a une émission qui s'appelle Normandie Connexion, d'ailleurs, qui est juste après Bonjour Turbine, où ça a été un de nos invités. Il nous a payé un café, il nous a expliqué un petit peu toute sa démarche et son projet artistique. Donc n'hésitez pas, c'était le 10e épisode de Normandie Connexion. Et je te redonne la parole, Floriane.
Oui,
c'est
tout à fait, parce que c'est à ton tour, Thomas, de parler. Tu vas nous présenter une initiative en faveur de la végétalisation de l'agglomération cannaise.
Exactement. Alors, on peut même presque parler aussi de réensauvagement à petite échelle. Ouais. Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Au pied du mur. Est-ce que ça vous parle? Vous avez déjà entendu parler de Au pied du mur?
Oui.
Oui, toi? Et à côté, non, Dakota, il dit non. Léna non plus. Génial, je vais vous apprendre des trucs. Alors, donc, c'est un projet qui participe à l'embellissement des rues de l'agglomération cannaise et qui est un gros vecteur de développement de biodiversité urbaine. Alors, c'est une initiative qui a été développée, qui a été créée plutôt en 2014 avec le CREPAN. Donc, c'est une grosse association, Comité Régional d'Études pour la Protection et l'Aménagement de la Nature en Normandie. Alors, je vous fais une petite remise en contexte au moment de la création de l'association. Donc, on est en 2013, la ville de Caen bannit l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'espace public. D'ailleurs, en 2017, cette interdiction elle devient nationale. Et aussi en 2015, l'État abroge une loi interdisant aux particuliers d'utiliser des produits phytosanitaires. Donc là, on va dans le bon sens. Et donc à ce moment-là, en 2013-2014, on passe au désherbage mécanique avec le rotophile, au désherbage thermique. Donc vous voyez, c'est la grosse bonbonne de gaz qui fait... et qui brûle les adventices. Oui, parce qu'on dit pas mauvaise herbe ici. Alors, donc en 2014, le crépan, j'ai trop soif. Le crépan entame des discussions avec la municipalité pour que le désherbage de l'espace public respecte les plantations des riverains. Alors, il y a un accord qui est trouvé, il y a un cahier des charges techniques qui est élaboré avec les services techniques de la ville pour, je cite, la végétalisation à titre précaire du domaine public routier communal. Donc, chaque propriétaire pourra faire une demande afin que les services techniques de la mairie découpent une bande de bitume de quelques centimètres de largeur et de profondeur dans le trottoir afin qu'il puisse l'ensemencer et ensuite le particulier s'engage à l'entretenir. Alors ainsi, au milieu du béton, on voit pousser librement des fleurs, des plantes. Waouh, c'est trop joli. Et comme l'explique Sylvain Giraudon, président de l'association, dans le média grand format, il dit « Multiplier les pieds de mur dans une ville permet d'en augmenter la biodiversité banale et de changer le regard que nous portons sur elle. Les plantes sont aussi plus facilement tolérées dans tous les stades de leur développement, y compris la période des graines et des plantes sèches. Cela favorise sensiblement la biodiversité végétale et par conséquent la biodiversité animale qui s'en nourrit. »
Et donc concrètement, si moi j'habite une commune de l'agglomération et que je veux participer à cette opération, comment je m'y prends ?
Alors question très pertinente, Floriane. Pour ce faire, il faudra réunir plusieurs maisons voisines. Dans un premier temps, c'est l'association qui est chargée de recueillir les demandes, donc le CREPAN, d'instruire les dossiers, puis de les transmettre à la mairie. Alors la demande, elle est faite auprès de la commune pour que les services techniques ne passent pas le fameux rotophile. Alors il faut cependant respecter une obligation, c'est laisser un espace vacant de 1m40 sur le trottoir. On parlait d'aménagement d'espace public justement pour les badauds et les poussettes puissent passer. Alors après une étude des plans de sous-sol, la municipalité valide ou non le projet et elle se charge de réaliser la saignée dans le bitume, de retirer les gravats et de mettre la terre et ensuite les habitants peuvent acheter les graines et les planter.
Oui, tout ça, ça nécessite quand même un petit aménagement urbain, un petit investissement. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire un peu plus simple ?
Eh bien oui, Floriane, encore une fois, une question très pertinente. Semer des graines dans les fissures du bitume, eh bien c'est possible au pied du mur. Propose cette action du coup depuis 2018. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, vous regarderez maintenant quand vous baladerez dans Caen et ailleurs, il y a un petit logo qui est apposé au pied des murs à l'aide d'un pochoir afin que les agents municipaux ne désherbent pas les plantations. Donc c'est un petit pied vert. David l'a vu, le logo devient un repère pour les passants et depuis 2024, à l'initiative de la municipalité, il est possible de faire directement une demande en ligne et à titre individuel, donc beaucoup plus simple.
Alors, autre question pertinente, mais est-ce qu'on sait combien d'habitants participent à cette opération ?
C'est dingue, toutes ces questions pertinentes. Merci Floriane d'être là. Alors d'après mes derniers chiffres, l'entretien de ces espaces est facilité par la prise en main de 400 propriétaires qui font aujourd'hui partie de l'aventure. Et je peux aussi dire que les pieds verts ont essaimé de l'autre côté du fleuve, au sud-ouest en partenariat avec l'association Vent d'Ouest, au nord de la ville. Des associations de même nature se sont créées à Lyon-sur-Mer, donc il y a Lyon Environnement, Bernières-sur-Mer, donc Bernières au pied du mur, à Ouistreham, l'association Goéland, à Bénouville, Bénouville Environnement, Mondeville au pied du mur, Langrune-sur-Mer, Landgrowan, je sais pas comment on dit, et Bretteville-sur-Odon, Interaction. Voilà, donc comme tu peux le voir, ça pousse, Floriane.
Effectivement, merci Thomas pour ce petit témoignage d'une initiative qui est intéressante et moi ça me fait penser à l'exemple d'une commune... pas très loin de la Loire, je ne sais plus où c'était, j'ai plus le nom et là je ne pourrais pas le retrouver là tout de suite, mais qui avait suivi ce genre de logique et qui avait vraiment revégétalisé tous les murs et les façades de maisons, et notamment avec des rosiers, et ça donnait un résultat magnifique, quoi. ça change vraiment le visage d'une ville.
Complètement. C'est tout bête et ça marche, quoi.
Ouais. Bon, en tout cas, merci Thomas. Et je passe le relais à Dakota qui, lui, est allé voir un spécialiste qui connaît bien le sujet. Alors, avant d'écouter ton interview, est-ce que tu peux nous présenter la personne que tu es allé rencontrer?
Oui, en fait, je l'ai rencontré il y a 15 ans parce qu'en fait, c'est un de mes amis. Mais du coup, il est ouvrier en génie écologique dans une boîte qui fait de l'entretien d'espaces verts, mais aussi des chantiers un petit peu nature pour préserver les habitats d'espèces des fois menacées, un petit peu dans les zones rurales ou autres. Et du coup, il a parlé un petit peu de son métier, du coup, comme tu le disais, Floriane, des différentes approches qu'on peut avoir face pour le réensauvagement, plutôt.
Ok, ben on s'écoute ça. Ouais.
Il y a plusieurs manières de le comprendre, mais pour moi, en France, le réensauvagement, c'est plutôt les espaces en libre évolution. Du coup, ça, c'est des programmes qui sont plutôt menés par des associations. Donc, comme en Normandie, c'est le Conservatoire d'espaces naturels, un programme qui s'appelle le PREL, le programme des espaces en libre évolution. Donc, le principe, c'est d'acheter, en fait, une parcelle, et puis de rien faire dessus, en fait. Mais donc, ça, en fait, c'est une approche, mon travail, c'est une autre approche, c'est une approche où au contraire on fait des choses, on intervient sur le milieu plutôt que de laisser le milieu évoluer lui-même. Pourquoi on intervient? Parce que en fait on intervient souvent en génie écologique, donc moi c'est mon travail, moi je suis ouvrier en génie écologique, et donc mon travail c'est de figer un milieu dans un état. En gros, on a un milieu de prairie par exemple, de manière naturelle un milieu, un habitat, ça va évoluer d'une prairie vers la forêt, en fait. Au bout d'un moment, ça part d'une prairie, et il va y avoir des petits arbustes qui vont commencer à pousser, après il va y avoir des ronces, etc. Ensuite, les arbustes vont avoir de la place, ça va devenir des arbres, etc. Ça va devenir une forêt. Et donc voilà, c'est ça l'évolution naturelle d'un milieu. Moi, par exemple, j'interviens sur des milieux de prairies humides, et le but de mon intervention, c'est de maintenir la prairie humide en état de prairie humide, parce que si on n'intervient pas, si on laisse l'espace en libre évolution, du coup ben le milieu va, ce qu'on appelle, se refermer, c'est-à-dire il va y avoir ça va devenir une forêt à terme, voilà, en plusieurs années, et du coup on va perdre certaines espèces un peu plus rares. Là c'est vraiment de l'intervention humaine, quoi. On intervient sur le milieu pour essayer de l'orienter. Après c'est la nature qui fait le travail, mais nous on essaie un peu d'orienter les choses et de voir comment ça se passe, parce que il y a tellement de variables dans la manière dont le milieu peut évoluer que en fait ça peut partir d'une manière qu'on n'avait pas du tout prévu, quoi. Donc là il faut réorienter un peu, parce qu'on travaille avec du vivant, donc c'est ça qui est intéressant mais difficile aussi, c'est que il y a plein de choses qu'on peut ne pas prévoir, quoi. Donc l'idée, c'est pour ça que c'est important de bien calibrer l'intervention pour évaluer l'intérêt de l'intervention. Est-ce que ça vaut le coup d'intervenir? Est-ce qu'on va pas faire plus de mal que de bien? Ça c'est une question qui est importante à se poser. Et après, du coup, en fait, moi je trouve que ces deux approches-là, du réensauvagement et de l'interventionnisme, du coup du génie écologique, c'est deux choses assez différentes mais un peu complémentaires. Faire que l'un ou que l'autre, ça serait déséquilibré, quoi. Faire que du réensauvagement, laisser que des espaces en libre évolution, ça ferait qu'à terme, on n'aurait que des forêts, voilà, que des milieux fermés, et on perdrait peut-être un peu des milieux patrimoniaux, genre les prairies humides, où si on n'intervient pas, du coup, le milieu se referme. De l'autre côté, en fait, faire que du génie écologique, ça ferait que on n'aurait que des milieux menés par la main de l'homme, tu vois, et donc c'est aussi intéressant d'avoir un œil sur la manière dont la nature évolue librement, quoi.
Bon, alors, ça fait sens avec ce que tu disais tout à l'heure, Floriane. Il y a de la nuance dans tout ça.
Tout à fait. Tout est toujours question de nuance.
Et alors, tu ne nous as pas donné le nom, prénom et le nom de l'entreprise de ton ami que tu as été enregistré, Dakota, quand même.
C'est vrai. Désolé, je m'en excuse auprès de lui, d'ailleurs, s'il écoute, je pense, oui. Enfin, il s'appelle Yves Alain Le Chartier, en fait. Un de mes amis très proches, et du coup il travaille parce que c'est quelqu'un d'assez très engagé aussi au niveau écologique et tout ça. Justement, en fait, ça lui avait plu de travailler dans cette boîte qui s'appelle Solveig, qui est à Saint-Pierre-sur-Dive et qui peut intervenir sur quand, enfin sur, voilà, même là ils étaient dans l'heure cette semaine, donc du coup ils peuvent faire aussi chez des particuliers, mais des chantiers notamment à Louvigny où ils avaient fait un espace pour les moutons, etc. Enfin voilà, donc c'est ce genre de choses qu'ils peuvent mettre en place.
Un espace pour les moutons. Là, tu me tends une perche parce qu'il y a une chronique qui va être qui va corroborer avec ton propos très très bientôt. Mais avant ça, une CPV.
Manque de temps, et oui, c'est le nom de ma CPV. À la bourre, à l'arrache, après tout. En retard, peut-être trop tard, cette chronique est écrite 30 minutes avant le début de l'émission. C'est dans la précipitation qu'on trouve les mots, qu'on trouve l'idée. Cette chronique est aussi vive que le monde qui nous entoure, le monde qui nous prend, aussi vive que les esprits qui se réveillent. Que faire, quoi faire, comment? Le monde part en vrille et mes mots en tournant essayent de rattraper le temps. J'écris vite, je fais des fautes, comme chaque humain qui essaye vite et fait des fautes. On trie, on plante, on mange différemment. On court, on respire et on tombe dans un nid de poule, le béton s'écroule. Et dans le fond du trou, on découvre des petits brins d'herbe qui, par l'humidité et les bribes de lumière, se sont élevés. Alors levons-nous et écrivons aussi vite que nos pouces le peuvent sur le clavier de nos iPhone 15. Purement éco-responsable. Allez, bisous.
Merci Léna pour ce one shot. Voilà, je l'ai vu en action. Elle a littéralement mis 6 minutes pour écrire cette chronique. Voilà, bravo. Allez, on continue de parler de moutons avec toi, David, je crois.
Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des moutons en ville, notamment à côté du lycée Fresnel et aussi à proximité du collège Jean-Claude Monet. Au départ, moi je croyais que c'était des élèves déguisés à l'occasion du carnaval, mais non. Il s'agit d'authentiques moutons en chair et en laine. Et tenez-vous bien, car j'ai un scoop. J'ai réussi à interviewer un mouton. Donc voici en exclusivité pour Bonjour Turbine, Jean le Mouton, porte-parole du FLM, le Front de Libération des Moutons. Monsieur Jean Mouton, merci de répondre à nos questions en direct dans notre émission. Je crois que vous parlez notre langue. Effectivement, à force de vous écouter, nous aussi, on peut vous imiter. Alors, content d'être de passage en ville ? Vous rigolez, si ça pue, on est cloîtré toute la journée dans un petit espace bruyant. On se prend les gaz d'échappement dans les naseaux. Je préférais largement être dans le Larzac au Pays Basque ou à la rigueur au Pays d'Auge. Pouvez-vous nous parler du Front de Libération des Moutons? Il s'agit de l'espace public. Il s'agit, pardon, de reconquérir l'espace public partout où c'est possible. Jadis, on paissait en paix où on voulait. Notre pâture rétrécit comme fond la banquise. D'ailleurs, j'invite les chèvres des Deux-Sèvres, les cerfs du bois de Vincennes, les chevaux de Camargue, les ânes du Poitou à nous rejoindre pour la manif du 1er mai avec à l'oreille un brin de muguet. Nous scanderons notre super slogan « Laisse béton le béton ». Et oui, nous en avons ras-le-bol de voir les villes s'agrandir, les espaces verts fondre comme neige au soleil et d'être obligés de manger du foin frelaté. Maudit béton, êtes-vous sûr d'être entendu? Je ne sais pas, j'ai bien l'intention de me présenter à la mairie de Caen et ma femme Gisèle, elle est en train de brouter la mairie de Colombelle. Elle a le coulon. Et le coulon, belle, c'est un argument de poids. Étant donné que les animaux n'ont pas le droit de vote, comment allez-vous faire? Nous irons bramer, gueuler sur les fenêtres de nos concurrents. On fera un chairivari d'enfer, je peux vous dire qu'un cerf en rut, ça envoie du son. Nous arrêterons la manifestation s'ils nous donnent les mairies. Pour nous... Vous savez, c'est la nourriture qui compte, avant tout, la panse d'abord. Je pense, donc je suis. Eh bien, merci, monsieur Jean Mouton. Un petit mot pour finir? Oui, un slogan. Mouton un jour un jour, mouton toujours. Un jour, vous verrez, chers électeurs, vous serez tous devenus des moutons et vous voterez pour nous.
On applaudit, évidemment. On n'a que des gens qui écrivent bien autour de la table, c'est terrible. Du coup, on peut dire une petite réflexion quand même, c'est tu t'as pris la peau d'un mouton qui fait de l'éco-pâturage en bord de périphérie, on peut dire
mais
ça?
Non, mais il y a, je ne sais pas si vous les avez vus, mais effectivement, il y a depuis un... 2-3 ans, je crois. Ils sont apparus, les moutons, là, à côté des collégiens. Alors moi, au début, j'ai cru que c'était pour la cantine, après manger, s'ils n'avaient pas... Mais non, ils sont là pour paître et certainement pour des raisons écologiques. Je sais pas toutes les, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire.
Bah, en tout cas, tu t'es fait leur porte-parole et bravo et merci beaucoup David. Je vous propose dès maintenant de passer à une autre pause musicale, la deuxième de la soirée. Cette fois-ci, ça sera un titre de Beach Youth, le quatuor qui vient d'ailleurs de sortir un nouvel album qui s'appelle Sunbathing. Waouh, j'ai réussi à le dire sans bégayer, incroyable. Et bah justement, il y a un super titre dans cet album et on va s'écouter The Other. The Other de Beach Youth et vous n'êtes pas sur FIP, vous êtes sur Station B et Radio Pulse dans l'émission. Bonjour Turbine. Alors, Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Si vous avez apprécié le titre qu'on vient d'écouter, The Other de Beatshoes, je vous inviterai, mais alors après l'émission, à réécouter ce morceau sur YouTube, car il y a un clip qui a été réalisé. Il est vraiment génial. Il a été tourné sur le sable des plages d'Anel à l'occasion du championnat du monde de char à voile. Et ben oui, c'est ça aussi, la Normandie. Alors, bon, si vous nous rejoignez, nous sommes évidemment sur Bonjour Turbine, la 82e. On parle de réensauvagement avec une équipe de sauvages, Léna, David, Marion, Floriane et Dakota. Et cette dernière, Floriane, nous a préparé un petit quiz pour nous instruire et faire tomber les idées reçues sur le monde sauvage.
Oui, alors un petit quiz c'est un petit peu ambitieux, mais voilà, je voulais confronter quelques, comme tu disais, quelques idées reçues qu'on peut avoir, avec notamment une première question. Est-ce que vous pensez qu'on peut avaler des araignées la nuit ?
Non. Oui.
Nous, oui.
Qui a dit oui ?
Marion. Ouais.
Marion ?
Ouais.
Ça te fait peur ?
Ça me fait pas peur, mais je pense que c'est possible.
Eh ben, qui a dit oui aussi ?
Moi, j'ai dit oui, mais je pense que c'est vraiment non.
Non, moi, je pense pas.
Bon, en tout cas, Internet dit qu'on pourrait le faire, mais c'est sans grand fondement scientifique. Et même en admettant qu'on dorme la bouche ouverte, sachez qu'une araignée qui se déplacerait sur notre visage ne trouverait rien qui l'intéresse au niveau de notre bouche. Puisqu'une araignée, la nuit, elle est avant tout en chasse ou alors elle cherche à se reproduire. Et venir nous grimper sur le visage, ce serait particulièrement une perte de temps et d'énergie pour elle, sachant que leur vision nocturne leur permet parfaitement de reconnaître une proie ou un partenaire. À noter aussi que les morsures sur l'humain ne sont pas des attaques, mais plutôt un moyen de se défendre si elle se sent agressée. Et en plus de ça, si elle n'était pas là dans nos maisons, nos maisons seraient envahies par les insectes. Donc, morale de l'histoire, foutons-leur un peu la paix.
Alors, moi j'ai une petite question. Si par exemple, on a mangé des insectes séchés et qu'ils nous en restent sur le bord de la lèvre, peut-être que là, elles auraient intérêt à venir sur nous. Et tu ne l'avais pas écrit dans ta...
Bon, admettons, mais il faudrait aussi que tu dormes la bouche grande ouverte.
Oui, c'est vrai.
Un petit filet de lave. Deuxième question. Est-ce que, selon vous, le lierre grimpant fragilise les murs des bâtiments ?
Oui.
Non.
Sans aucun doute.
Non. Moi, j'ai pas d'avis sur la question, vraiment.
Tu t'endors, David.
Bon, je vais te dire que oui, peut-être.
Bon, c'est facile. En même temps, on se doute bien que la réponse est souvent non.
C'est
mais
non
en tout cas, oui, c'est non. Ah ouais. C'est une nouvelle idée reçue. En fait, les crampons du lierre lui permettent de s'accrocher, mais ne s'insinuent pas dans le bâti et donc ne fragilisent pas les murs. Et au contraire, même le lierre est plutôt intéressant puisque ça protège les murs et ça renforce la régulation thermique du bâtiment. Le seul risque, finalement, c'est de laisser le lierre se développer sur un mur qui est déjà en mauvais état et qui risquerait de céder sous le poids du lierre. Et il faut juste être vigilant aussi à ne pas le laisser atteindre le toit, où là, effectivement, il pourrait passer sous les tuiles et abîmer la structure du bâtiment. Mais en outre, il faut savoir aussi que le lierre possède pas mal d'avantages. Ses feuilles constituent notamment un abri de premier ordre pour beaucoup d'espèces de la faune sauvage, donc insectes, araignées, oiseaux. Les pollinisateurs profitent de son pollen et de son nectar à une période où il ne reste plus beaucoup de fleurs, donc c'est plutôt vers la fin de l'été et c'est généralement assez intéressant. Et de la même manière, bien qu'elles soient toxiques pour l'homme, ces baies sont très appréciées des oiseaux qui s'en nourrissent eux aussi à une période de l'année où finalement les sources de nourriture sont encore assez rares.
Et, voilà. Et alors si on dort la fenêtre ouverte et qu'on dort la bouche ouverte, est-ce que le lierre peut venir dans notre bouche ?
Je ne sais pas. En tout cas, il y a des araignées dans le lierre, donc
okay.
Attention.
Ok, ce serait bien de vraiment plus t'informer sur tes chroniques.
Il est bien ce quiz.
Dernière question, est-ce que les mauvaises herbes sont-elles vraiment mauvaises ?
Non.
Ah, c'est bien. Vous commencez à comprendre la mécanique de ce quiz qui est très très quiz. Donc, et pour répondre à cette question, je vais citer un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gilles Clément. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Gilles Clément est botaniste et écrivain. Et il a dit cette chose que je trouve toujours assez juste et c'est très simple, mais plutôt inspirant. En fait, lui dit que les herbes ne sont ni mauvaises ni indésirables. Elles sont. Point. Elles sont.
Il a tout dit.
Voilà. Et en fait, à mauvaise, on devrait plutôt que mauvaise, on devrait plutôt parler de spontané, à la limite, puisque c'est vrai que ces herbes, elles poussent partout, oui, elles poussent rapidement. Mais finalement, les tolérer, c'est plutôt un moyen d'augmenter la diversité dans son jardin, en permettant l'établissement d'équilibres écologiques qui contribuent notamment à la régulation naturelle des ravageurs et des maladies. Et par ailleurs, l'observation de ces plantes peut aussi être un bon moyen de mieux connaître son sol, en termes de pH, de composition, dans le terme d'azote, etc., etc. Et donc, plutôt que mauvaise, on peut aussi appeler ces herbes bio-indicatrices, ce qui est quand même un qualificatif un peu plus valorisant que mauvaise ou indésirable. Ou, voilà.
Donc, conclusion, laissons faire la nature.
Bah, laissons-la faire, en tout cas, donnons-lui un petit peu plus de place que ce qu'on lui donne aujourd'hui, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Floriane, pour ce quiz où les réponses n'étaient que des noms. Nous allons passer à la troisième et dernière CPV de l'émission. Alors, chers amis, chers citoyens, citoyennes cannais, vous avez certainement entendu parler de la halle gourmande. Eh bien, la ville de Caen, finalement, ne va pas installer de halle gourmande. Donc, bravo, bravo, on peut applaudir. Voilà. Il y aura un jardin à planter à la place. Mais on n'oublie pas les 45 arbres abattus illégalement pour rien. Joël Bruno, si tu nous entends. Alors, après 10 ans de bras de fer, la ville a jeté l'éponge et met fin au projet de la grande halle gourmande à cet endroit. Elle négocie les modalités de son retrait avec le promoteur privé d'ici l'été 2025. Parce que oui, ça va coûter de l'argent d'annuler aussi. Donc là, il y a trois réunions publiques. Oui, question de Floriane.
Oui, est-ce que tu sais pourquoi la ville a jeté l'éponge finalement ?
Alors je crois que s'il y avait un conflit très ouvert entre le promoteur, les habitants, la collectivité. Initialement, ce projet, il était né d'une concertation citoyenne. Le problème étant que c'est que toutes les réflexions citoyennes ont été oubliées au moment de la conceptualisation finale du projet. Et donc, c'est là aussi où ça a bloqué. Et il y a eu pas mal de militants qui se sont emparés de l'affaire, donc, notamment Extinction Rebellion et j'en passe, et d'autres associations locales. Et donc, alors justement, il y a plusieurs réunions publiques là, qui sont prévues, donc entre le 22 avril et le 5 juin. Donc, en parallèle de ces réunions, la ville, elle engage une concertation sur l'avenir de cette partie. Oui, encore de la concertation, mais celle-ci, on espère qu'elle va aboutir. Alors, date à laquelle, justement, je dis n'importe quoi, je dis complètement n'importe quoi. Alors, la ville prévoit justement avec l'agence Phytolab, c'est un super nom quand même, je ne sais pas si j'aurais confiance, la Phytolab d'implanter sur le terrain un jardin public, donc déjà nommé Jardin de la République. Alors, content mais méfiant, à Caen, les opposants au projet de la halle commerciale restent sur leur garde. Donc, trois ateliers sont calés à l'hôtel de ville les mardis 22 avril, 6 mai et le jeudi 5 juin à 18h. Alors, dans les deux premiers, les habitants pourront y exprimer leurs envies et attentes sur ce projet d'aménagement. Et le troisième atelier, le 5 juin, sera consacré, selon la ville, à la restitution des ateliers et à la présentation d'une première esquisse d'aménagement du jardin. Alors, pour y participer, les habitants qui le souhaitent doivent s'inscrire en ligne. Il faut remplir un formulaire sur le site de la communauté urbaine Caen la Mer et respecter une condition. Il faut s'engager à assister aux trois réunions, donc 22 avril, 6 mai et 5 juin. Donc voilà, citoyens, citoyennes, à vous de jouer. Il nous reste 8 minutes d'émission, profitons-en pour écouter le billet de David sur le réensauvagement.
Mais c'est bien sûr, évidemment! Il faut semer de l'authentique partout, comme il le disait dans le film Jean de Florette. De l'authentique, du jasmin autour des bassins, des violettes le long des dunettes et des lilas ici et là. La couleur, la poésie, la vie, c'est le tiercé gagnant pour remporter l'espoir. Oui, je suis pour l'idée de réensauvager nos territoires, mais j'irai plus loin. Par exemple, je propose de mettre des moutons et de l'herbe à l'Assemblée nationale. Ils évoquaient le grand remplacement, et bien voilà. Moi, je le fais. À force de prendre du vent et des râteaux, j'ai développé une véritable conscience écolo. Et je suis pour les jardins participatifs, les associations de reforestation et toutes les initiatives qui souhaitent mettre du vert et de l'espérance dans nos vies. Car si demain, on veut se mettre au vert, il faut qu'il reste du vert. Alors s'il vous plaît, arrêtez de bétonner à tout va pour installer un énième mémorial du débarquement histoire de faire de l'argent. Il est temps d'ouvrir l'autoroute à 13, au Scarabée, sans passer par des tunnels. La prairie va accueillir des chevaux de Camargue, des renards roux, des loups gris. Tous auront droit de cité, à condition de montrer patte blanche. Les sangliers, pourront franchir le pont de Vaucelles et s'installer place de la République pour chercher des truffes le jour de marché. Les marsouins de la baie de Seine ne devront pas être dérangés pendant leur sieste. À Pâques, il y aura des lâchers d'escargots en forêt cinglée. Enfin, on pourra se promener nu les jours de grand froid sans être arrêté si on a la police. On mangera du bison et des herbes folles sans passer par la pharmacie. Plus de bagnoles, plus de pollution. La couche d'ozone a été reconstituée et la calotte glaciaire s'est bien épaissie depuis qu'on lui a refourgué nos vieux frigidaires. Tout va mieux dans le meilleur des mondes. Bon, un lion a bouffé mon oncle Maurice et depuis que j'ai réintroduit les ours dans l'Assemblée nationale, le député est une espèce en voie de disparition. Mais à part ça, la vie est belle.
Bravo David! Avec ce petit appui musical, ça faisait son petit effet quand même. Hein. C'était très chouette. Eh bien, allez, il nous reste encore un peu de temps. On peut s'écouter une dernière pause musicale. Celle-ci nous est proposée par Bibundé, qui vient de sortir son nouvel EP Vie Vibrée le 28 mars. Et je vous propose d'écouter le titre Wolf. J'espère que vous avez kiffé ce son. C'était Bibundé et le titre Wolf. Voilà, ils viennent de sortir. Le duo normand vient de sortir un nouvel EP, un nouvel album, Vie Vibrée. Alors peut-être pour terminer, je pense à ça. Floriane, tu nous avais conseillé une BD dans l'émission Dessinée pour résister d'Alessandro Pignocchi. Oui. J'ai l'impression que ça pourrait quand même pas mal coller avec le sujet du jour. Tu peux nous en parler. Il nous reste, allez, une minute.
Oui, c'est le petit traité d'écologie sauvage d'Alessandro Pignocchi, donc qui est scientifique ou en tout philosophe des sciences, si je me souviens bien, et qui est aussi auteur de bande dessinée, donc très bel illustrateur. Enfin, c'est pas lui qui est forcément beau, mais en tout cas, il fait des très beaux dessins. Dans le petit traité d'écologie sauvage, en fait, il invente un monde finalement où nos sociétés seraient plus ou moins construites sur le principe de l'animisme, en fait. Et donc, ça donne des situations assez cocasses sur la manière dont on pourrait vivre autrement, en réintégrant totalement la place du vivant dans nos manières de faire, de cohabiter, de coexister.
Et donc en 3 tomes, ça se lit très bien. Et d'ailleurs, les BD, je les ai rendues, elles sont disponibles à la bibliothèque Alexis Tocqueville. Donc empressez-vous d'aller les chercher.
Tu l'as lu du coup ?
J'ai lu, ouais. J'ai vraiment apprécié. Ça m'a presque fait penser à du Fab Caro dans le côté absurde parfois. Et il est 18h, 19h58, nous arrivons au terme de cette émission. Je tiens à remercier Marion à la technique, Dakota, Léna pour son retour, David et Florian pour la co-animation. Alors sachez, chers auditeurs, que toutes les émissions sont disposées sur le site du Media Lab ou de la radio ou sur les plateformes de streaming. Voilà, c'est tout pour l'équipe de Bonjour Turbine ce soir. On vous souhaite une très bonne écoute sur les ondes de Station B et Radio Pulse.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie.
On a repoussé les limites, là.
Nous invitons les voyageurs à sauter du train.
Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçue.
Merci.
Au revoir.